radio libre et associative.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Eh bien, ce soir, une fois n'est pas coutume, il y a longtemps qu'on vous a pas parlé de nucléaire. On va vous en parler ce soir. On a piqué des choses très bonnes sur Fréquence Paris Pluriel, Paris Fréquence Pluriel, excusez-moi. L'émission s'appelle Vive la Sociale. Ceux qui causent savent de ce qu'ils disent. Ils connaissent bien le sujet. Donc, on va donc écouter ça et puis après, on pourra en parler. Ensuite, on terminera peut-être, s'il reste du temps, sur l'histoire, bien évidemment, de la répression qui est en train de nous tomber sur la gueule de plus en plus fort.
Je vais essayer de rappeler un peu les différentes étapes qui font qu'aujourd'hui, on a un contexte où, d'un point de vue médiatique en tout cas, le nucléaire a le vent en poupe. Alors, il y a tout juste un an, c'était le 10 février 2022, Macron avait annoncé la construction de six nouveaux EPR. Et fin septembre, on avait appris que le gouvernement avait envoyé au Conseil national de la transition écologique le projet de loi qui visait à raccourcir les délais de construction de nouveaux réacteurs. Et l'objectif était de faire passer ce texte en Conseil des ministres à la mi-octobre, et ensuite, les nouvelles dispositions devaient s'appliquer à partir du deuxième trimestre de cette année. En fait, il faut faire un pas en arrière. En 98, il avait été décidé de créer ce qu'on appelait le laboratoire de Bure, le CIGEO, le centre industriel de stockage géologique, qui devait étudier la possibilité d'enfouir de façon définitive les déchets nucléaires de haute activité et à vie longue jusqu'à 100 000 ans. Quel Andra, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, ne sait plus où mettre. Donc les démarches administratives et les travaux de construction de ce nouveau site sont encore en cours et sa construction a été déclarée d'utilité publique le 7 juillet 2022, en été, juste au moment où les gens vont en vacances. Il faut quand même rappeler que les piscines d'entreposage de ces déchets radioactifs à La Hague, dans le Cotentin, débordent des déchets d'EDF et il a été décidé d'en construire des nouvelles en attendant la mise en service de Bure parce qu'ils ne savent plus où les mettre. Et là aussi, un collectif s'est constitué et se bat contre cette extension. grosso modo dans la même période, a fait pression en Europe pour que le nucléaire soit inclus dans ce qu'on appelait la taxonomie verte européenne et a obtenu qu'il soit qualifié d'énergie de transition bas carbone au même titre que le gaz. En France, il y a eu, à partir de ce moment, une propagande médiatique incroyable en faveur de la relance du nucléaire qui vient désormais présentée comme une énergie verte, propre et d'avenir. Même pas comme une énergie de transition. C'est elle qui, d'après nos médias, va nous sauver, va sauver le climat. Et il y a quelques jours, les médias nous ont appris que la France a pris la tête d'un groupe de 10 États pour relancer le nucléaire en Europe. Donc, on voit bien que cette affaire tient beaucoup à cœur à notre chef d'État et à ceux qui lui sont proches. Des associations financées par l'État et des grandes entreprises, comme le Shift Project, le défendent comme un complément indispensable à la décroissance et à la sobriété, avec l'objectif de sauver le climat, et le mot « décarboné » devient l'adjectif obligatoire chaque fois que dans les médias on parle du nucléaire. Alors, Macron a clairement indiqué qu'il voulait le relancer aussi pour assurer l'indépendance énergétique de la France. Mais comment il va faire vu que l'uranium vient du Niger, du Kazakhstan, d'Ouzbékistan, d'Australie et du Canada? Et il avait rappelé dans son discours au Creusot qu'il n'y a pas de nucléaire civil sans nucléaire militaire et pas de nucléaire militaire sans nucléaire civil. Donc il s'agit là d'une question politique, d'une question de puissance, plus que d'une question énergétique, même si c'est toujours la protection du climat qui est mise en avant. Alors, suite à ces déclarations, il a pris la décision de faire construire six nouveaux EPR, dont les deux premiers devaient être sur le site de l'actuelle centrale de Penly, dans la Manche. Une obligation légale impose à EDF, qui assure, en plus de toutes ses charges, la maîtrise d'ouvrage, d'organiser un débat public, sous l'égide de la CNDP, la Commission nationale du débat public, qui est une structure censée garantir la sérénité des débats et la légalité des décisions prises à l'avance. Pour les nouveaux EPR aussi, la décision est déjà prise, mais différents groupes antinucléaires acceptent quand même de participer au débat de la CNDP, car étant donné la domination du lobby nucléaire dans les médias, ils espéraient utiliser une tribune pour exposer les arguments, leurs arguments. Ce débat a eu lieu entre la fin octobre et la fin février, et chaque fois dans une ville différente, dans des salles plus ou moins éloignées des centres-villes, avec un nombre assez limité de participants, et les grands médias ne se sont pas particulièrement intéressés. Mais déjà, depuis quelques séances, les choses sont si claires qu'avant Noël, même des organisations ayant pignon sur rue, comme Greenpeace ou le réseau Sortir du nucléaire, annoncent qu'elles renoncent à participer au débat suivant. Après les dernières séances à Lyon et à Lille, qui ont été bloquées après l'intervention bruyante de manifestants antinucléaires locaux, une manifestation nationale est organisée à Tours pour le débat prévu le 16 février dans cette ville, dans le but déclaré de faire comprendre notre refus de cette mascarade. Et à ce moment-là, la CNDP annule la réunion prévue, mais la manifestation nationale est maintenue. Elle a été précédée d'une grande assemblée réunissant les groupes antinucléaires du Nord et du Centre de la France, à peu près 150 ou 200 personnes, qui, pour la première fois depuis plusieurs années, se sont réunies pour discuter de la manière de poursuivre la lutte au-delà des différences et divergences qui ont toujours marqué le mouvement antinucléaire. Et en même temps que les débats de la CNT et de la CNDP, Macron et le gouvernement prennent des décisions importantes ou envisage des choses un peu plus sérieuses. Il y a un projet de loi qui prévoit l'accélération des procédures d'autorisation de construction des nouvelles installations nucléaires et présenté et adopté au Sénat à la fin janvier. Le 23 janvier, le Sénat décide que la loi de 2015 qui plafonnait la production d'électricité nucléaire à 50% du mix énergétique français d'ici 2035 est modifiée et que ces 50% sont supprimés. En fait, ils les transforment en plancher. À la mi-février, le gouvernement annonce même d'envisager d'utiliser les fonds du livret A destinés jusque-là à financer le logement social et l'isolation thermique pour financer la construction de nouvelles centrales. Et finalement, un communiqué du ministère de la Transition énergétique du 8 février annonce la prochaine fusion des structures de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, et de l'IRSN, c'est-à-dire l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire, et du CEA, le Centre de l'énergie atomique, et semble-t-il aussi des énergies alternatives aujourd'hui, sous l'égide de ces derniers. En fait, il va perdre l'IRSN, une indépendance qui était jugée un peu excessive, mais qui avait permis d'éviter des problèmes majeurs, et au passage avait pas mal agacé EDF, parce qu'il ne laissait pas faire toutes les petites magouilles et broutilles au quotidien. Cette décision a un lien évident avec la prolongation de la durée de vie des centrales qui et va permettre une attitude nettement moins regardante sur les activités d'EDF. C'est une dernière chose. On a appris que le bilan financier d'EDF pour 2022 a été annoncé avec 64 milliards et demi de dettes, 18 milliards de pertes. Or, dans un pays capitaliste normal où l'État n'intervient pas à tout bout de champ, une entreprise comme ça aurait dû mettre la clé sous la porte. Mais elle n'a pas cessé d'être renflouée par l'État et donc par le contribuable. Là, moi je voudrais juste rappeler les deux initiatives qui ont été annoncées.
Qui est-ce qui veut en parler?
La manifestation nationale et internationale pour le 3 juin à Bure, dont l'appel était encore en préparation, et la réunion de tous les groupes antinucléaires intéressés par une coordination dans le cadre des journées d'études d'ADN dans le premier week-end de juillet.
Enfin, le père de Flamanville, d'après ce que j'ai lu, il avait pour fonction, enfin, du point de vue d'EDF, d'essayer de remettre de la compétence, enfin, de tester les compétences, ou de réactualiser les compétences. Donc, le fait qu'il y ait des ratés, ils peuvent se dire, bon, ben, c'est normal, sauf que, bon, effectivement, au prix que ça coûte, c'est assez impressionnant. Sauf que maintenant, Monsieur Macron décide de son propre chef d'en faire 6. Hein, comme si, effectivement, les questions techniques étaient résolues alors qu'elles ne le sont pas du tout. Hein. Et en plus, question finance, Bernard, où est-ce qu'ils vont trouver l'argent?
Ah, il faut écouter peut-être.
Il y avait justement des déclarations toutes récentes de Mme Pannier-Runacher qu'on va vous faire passer là.
La ministre de la Transition énergétique.
Oui, exact.
Sadia Brakia, Max Fauvel.
Toujours avec Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique. On parle de la relance du nucléaire dans le pays. Alors, ces nouveaux réacteurs que vous voulez faire construire, ils vont entrer en construction justement à partir de quand?
Alors, encore une fois, il faut grosso modo 15 ans pour construire un réacteur. 15 ans, c'est beaucoup d'études d'ingénierie. C'est pour ça que ça ne se voit pas aujourd'hui. Et vous savez que donc EDF a démarré les études et doit nous livrer le résultat de leur travail d'ici la fin de l'été. Et c'est ensuite beaucoup de procédures de validation en matière de sûreté nucléaire.
Et votre calendrier, c'est quoi? C'est on coule le béton, la première centrale
Alors, la première coulée de béton dans un calendrier ambitieux, c'était effectivement fin 2027 pour une mise en service espérée entre 2035 et 2037.
Fin 2027, après la prochaine élection présidentielle.
Tout à fait.
Ça veut dire que le choix d'appuyer définitivement sur le bouton sera laissé au prochain président de la République.
Non, absolument pas, parce que pour couler le béton en 2027, il faut avoir, c'est en 2023 que vous devez déposer le dossier d'autorisation de construction. Donc en fait, ce sont des procédures qui sont très longues,
très rigoureuses. Mais ça veut dire que le successeur d'Emmanuel Macron ne pourra plus faire demi-tour?
Ah, je pense que ce sera difficile parce qu'effectivement, toutes les autorisations et la mise en œuvre du chantier sera d'ores et déjà faite.
Quelle après, que soit la couleur du prochain président de la République.
Après, Marc Louvel, si vous me permettez, à chaque instant, un dirigeant politique peut passer une loi pour corriger une autre loi et arrêter un chantier. Ça lui appartiendra. Mais ce que je dis, c'est que la décision que nous prenons aujourd'hui, c'est une décision que nous allons prendre d'ailleurs, puisque c'est une décision qui suppose d'associer aussi le Parlement. Cette décision-là, elle conduit à avoir une première coulée de béton en 2027 et une mise en service du réacteur, des premiers réacteurs nucléaires entre 2035 et 2036. Ça se fera à Penly, c'est en Normandie. Ce sont les deux premiers réacteurs et nous construisons des réacteurs sur des centrales existantes ou en proximité de centrales existantes, puisque on a les compétences, puisqu'on a l'acceptabilité, les gens sont très en soutien de ces projets et ça permettra effectivement d'aller plus vite.
Ce qui est étrange, Madame la Ministre, c'est que depuis tout à l'heure, on a l'impression que voilà, votre projet il est déterminé, il y a un calendrier, tout est projeté. Sauf que le texte, il arrive seulement aujourd'hui au Parlement, à l'Assemblée nationale. Si le Parlement dit non, on arrête tout ?
Alors d'abord, le texte que nous présentons aujourd'hui au Parlement, c'est un projet d'accélération des procédures administratives et de sécurisation des décisions de prolongation des centrales.
Si sur les nouveaux réacteurs, le Parlement dit non, vous faites quoi ?
Eh bien, le Parlement, aujourd'hui, ne portera pas son avis sur les réacteurs futurs. Encore une fois, cela paraît peut-être un peu complexe lorsqu'on écoute, mais la mise en œuvre d'un projet de réacteur nucléaire, c'est un projet très complexe. C'est-à-dire qu'on va arriver devant le Parlement en étant capable de leur dire « voilà la solution technologique que nous avons, et ça prend plusieurs années à établir. Voilà les éléments de coût et de financement que nous avons, justement. Et cela prend plusieurs mois à établir. Et ce sont tous ces éléments que nous sommes en train de rassembler pour prendre cette décision. »
Sur le financement,
donc vous voyez,
justement,
au contraire, c'est une décision qui est extraordinairement rigoureuse, étayé sur l'ensemble des enjeux, que ça va de la technologie à la sûreté, au délai de construction et évidemment aux enjeux financiers.
Agnès Pannier-Runacher, qui va les payer qui va payer la construction de 6 réacteurs? Le nouveau patron d'EDF dit c'est au minimum 50 milliards d'euros.
Alors, c'est collectif, c'est un investissement.
Et lui dit, j'ai pas les moyens aujourd'hui, j'ai une dette de 60 milliards d'euros, j'ai perdu 18 milliards l'an dernier, je ne peux pas aujourd'hui financer ces réacteurs.
Tout à fait.
Qui va les payer?
Et donc, c'est un investissement, et je rappelle que cet investissement, il a vocation à rapporter, entre guillemets, aux Français, puisque ce que nous sommes en train de construire, c'est une capacité de produire de l'électricité à un coût compétitif. Je prends
pour
l'exemple.
Qu'il rapporte, il faudra que ces centrales fonctionnent, donc vous avez
tout à fait.
En attendant, pendant tout le chantier, ça coûte de l'argent.
Et c'est un
qui
investissement.
Va payer pendant les...
Et c'est un investissement, ouais. Donc c'est une avance, en quelque sorte, c'est une forme d'avance de trésorerie pour
que fera l'État ou que feront les consommateurs et les usagers d'EDF.
Sur le chiffre d'affaires. Et donc c'est la question, enfin c'est le point que je vous indique, c'est-à-dire nous sommes en train de travailler sur le financement de ces centrales nucléaires. Il y a plusieurs options. Une partie peut être financée par l'État. Vous avez évidemment le financement au travers des tarifs. Lorsque vous payez l'électricité aujourd'hui, vous payez une marge qui permet de rembourser les investissements qui ont été faits.
Fait il y a très longtemps. Ouais.
Qui ont été faits il y a très longtemps,
qu'il faut
mais qui néanmoins.
S'attendre à une hausse des tarifs pour financer les futurs réacteurs.
Non, pas nécessairement.
En partie, en tout cas.
Absolument pas. Ça dépend comment on le fait. Si vous voulez, quand vous prenez par exemple une banque qui vous la remboursez, au moment où vous avez le chiffre d'affaires, vous pouvez faire un portage
financier.
Mais vous
pensez que les banques vont prêter aujourd'hui à EDF pour construire des EPR dont le seul exemplaire que nous avons en France a 10 ans de retard et a coûté 10 milliards de plus que prévu.
Oui, mais je le redis, c'est un projet qui a vocation à rapporter une énergie compétitive pour les Français. Et il faut prendre sous cet angle-là. On ne fait pas cet investissement pour dépenser
l'argent. Non, mais d'accord, mais
on fait cet investissement pour donner une électricité compétitive que paieront les Français. Le consommateur paiera son électricité, continuera à payer son électricité.
Non, mais concrètement, est-ce qu'il va y avoir un nouvel impôt, en fait, nouvel impôt pour construire ces...
Non, on n'a pas besoin d'un nouvel impôt. Là, je pense qu'on
ou
est dans le fantasme.
Français, par exemple, un appel aux
on
Français.
On est dans le fantasme total. On a besoin de financements long terme qui peuvent être soit de la part de l'État...
demander à Mme Pannier-Runacher de faire partie de notre collectif antinucléaire. Parce que tout ce qu'elle a dit là, on aurait pu le dire pour critiquer à fond ce projet absurde qui, comme elle dit, a vocation à faire payer les Français, justement. Et s'ils ne le payeront pas dans leur facture, ils le payeront en tant que contribuables. Mais bon, essayons de reprendre réflexion.
Oui. Je ne pense pas que la vocation de ce projet soit de faire payer les Français. La vocation de ce projet, c'est de rapporter à tous ceux qui sont impliqués dans l'industrie nucléaire pour construire tout ça. Au bout du compte, il y aura pas forcément d'électricité. Pour le moment, au bout du compte des EPR2, il n'y a pas d'électricité. Et elle a raison, cette dame. Comment est-ce qu'on remboursera? On a bien vu sur d'autres sujets avec le gouvernement. Si EDF peut pas payer, eh ben, on prendra des sous dans la caisse de l'État. Il suffit de prolonger. Par exemple, on peut prendre sur la retraite, on peut prendre sur le chômage, on peut prendre sur les salaires des fonctionnaires, etc. Pour les payer. Quand elle dit c'est complexe, c'est pas complexe du tout. On fait voter au Parlement juste un petit truc sur les procédures administratives et on a déjà tout décidé. Et si jamais il y avait un changement politique, le béton sera déjà coulé et donc on pourra hurler qu'interrompre les projets, ça coûtera je sais pas combien de milliards. Faut rappeler que Mitterrand, quand il est arrivé au pouvoir, il a promis d'arrêter le programme nucléaire, mais dans quel sens? Dans le sens qu'il prenait pas de nouvelles constructions, mais qu'il finissait ce qui était construit. Et en 2 ans, sous le premier président, donc, qui arrêtait le programme nucléaire, on est passé de 17% de l'électricité d'origine nucléaire à 55%.
Bon. Est-ce que on se fait quand même une petite pause? On se fait une petite pause?
On n'en veut plus le nucléaire, on n'en veut pas. On n'en veut plus le nucléaire, on n'en veut pas. On n'en veut plus le nucléaire, on n'en veut pas. Arrêtez ça.
Bon, le nucléaire, on n'en veut pas, hein? Ok. Bon, passons à un autre chapitre. Évidemment, la propagande pro-nucléaire, on entend, bon, elle fait beaucoup d'adeptes en ce moment, notamment sur la, par rapport à la question climatique, hein? Donc, Rimso, qu'est-ce que tu penses de ce discours sur le nucléaire? C'est une bonne solution pour résoudre la question de l'effet de serre en particulier.
Non, mais ça va avec le mythe de l'électricité propre. C'est-à-dire que dans nos villes, on voit pas les fumées, on voit pas les problèmes de tout le cycle de vie d'une construction et du fonctionnement normal d'une centrale nucléaire. Rien que ça. On en a un peu abordé, il faut aller chercher l'uranium dans plein de pays qui ne sont pas plus la France depuis qu'on a fermé les dernières mines dans le Limousin et ailleurs. Et du transport pour amener l'uranium directement dans le sud de la France, enrichissement, c'est retransport pour fabriquer les crayons de combustible, retransport pour aller dans les centrales nucléaires, retransport après peut-être pour aller le stocker à l'AG ou le retraiter, plein de choses comme ça. Il y a même des transports qui vont de l'AG en Russie, que ça revient pour potentiellement être revalorisé, que ça soit pas considéré comme des déchets. Donc déjà il y a tout ça, il y a tout le béton qu'il faut pour construire, les pylônes, les aciers, les cuves, on en passe des meilleurs, et l'inadaptation foncière du nucléaire, qui reste un problème et pas une solution face au réchauffement climatique, du fait de son fort besoin en eau. Parce qu'il faut savoir qu'une centrale nucléaire, si on la refroidit pas, si on refroidit pas le combustible et le cœur du réacteur, il peut y avoir une surchauffe, une explosion et une catastrophe nucléaire. Donc, ou une prise de feu des barres de combustible qui dégagerait plein de matières radioactives. Donc, il faut avoir une source en eau pour refroidir les centrales. Le central, c'est un circuit primaire, un circuit secondaire et un circuit de refroidissement. Et sans ce circuit de refroidissement, les centrales peuvent être mises à l'arrêt. C'est ce qui s'est passé quand il y a eu des centrales qui avaient plus assez d'eau à côté d'eux, parce que c'est toujours à côté d'un fleuve ou d'une côte, les centrales, pour pouvoir refroidir en permanence et si le niveau d'eau est trop bas, on peut plus refroidir. Il y a deux types de centrales. Il y a celles sans aéro-réfrigérant, c'est des centrales qui prennent de l'eau, qui refroidissent et qui la rejettent dedans. C'est souvent les centrales dans les fleuves à haut débit. Il y en a très peu en France, ou sur les côtes. Les côtes, que ce soit les côtes à côté de Bordeaux, dans le Blayais, en Normandie et tout ça, ou dans le nord de la France, jusqu'à Gravelines. Là, c'est des centrales sans tour aéro-réfrigérante. Les tours aéro-réfrigérantes, c'est ce qu'on voit. C'est le symbole un peu du nucléaire. C'est les grandes tours de béton, là, les grandes cathédrales de l'horreur du progrès, quoi. Et donc, en plus, dans certains, pour pas que l'eau, avec la chaleur et tout, abîme les conduits, qu'il y ait des particules qui se fabriquent de la vie biologique, il y a aussi du traitement chimique. Donc il y a des rejetements aussi d'eau qui sont bourrés de produits chimiques. Et après il y a toute la question du réchauffement direct. Mais ça, je crois que c'est Sylvie qui voulait en parler. Le réchauffement direct lié au rejet thermique des centrales nucléaires.
Oui, c'est-à-dire que la religion qu'on nous dit sur le nucléaire, c'est que c'est décarboné. Donc, comme Rimso vient vous l'expliquer, décarboné, je veux bien, mais enfin, quand on va de la Normandie à Omsk et de Omsk à la Normandie en camion, ça produit un tout petit peu de carbone. Bon, donc c'est décarboné si on fait abstraction des transports, déjà. Si on fait abstraction de la construction des centrales, si on fait abstraction de la métallurgie et tout ça. Mais en plus, il y a quand même un autre truc. C'est que le nucléaire, c'est quand même une des façons les plus inefficaces de produire l'électricité. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les centrales thermiques, au gaz, au charbon, au nucléaire, le principe, c'est quoi? On fait chauffer de l'eau pour que cette eau fasse tourner des turbines qui se transforment pour que ça produise de l'électricité. Voilà. Sauf que toutes ces centrales ont des déperditions. C'est-à-dire quand on transforme la chaleur en électricité, on perd une partie d'énergie. C'est ce qu'on appelle le rendement énergétique. Et si je m'appuie sur les chiffres de Jean Covici, c'est-à-dire le plus fervent pro-nucléaire, le Shift Project, qui défend le nucléaire comme une énergie solution au climat. Eh ben, c'est celle qui a le rendement énergétique le moindre. D'après lui, c'est 33%. Donc, si d'après lui, c'est 33%, on peut dire que c'est 33% au moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est que 33%, ça veut dire qu'il y a 67% de la chaleur produite qui sort de la centrale. Et moi, je suis pas physicienne, je suis pas ingénieure, j'ai pas fait des études scientifiques. Mais j'aimerais qu'on m'explique comment un truc qui évacue 67% de l'énergie qu'il produit, et qui produit quand même une énergie gigantesque, hein, parce que les centrales nucléaires, c'est celles qui produisent, qui sont calibrées comme avec les plus grandes puissances énergétiques. Comment un truc qui évacue sous forme de chaleur 67% de l'énergie qu'il produit pourrait contribuer à refroidir le climat? Ça m'échappe. Et je rappelle un truc, c'est que l'autorisation d'EDF, elle doit demander une dérogation pour ces rejets dans les rivières quand ça dépasse 28 degrés. Donc déjà, vous imaginez hein, le Rhône à 28 degrés ou la Loire à 28 degrés, c'est déjà pas très normal. Et en plus, EDF demande régulièrement des dérogations. C'est-à-dire que à ces endroits-là, les fleuves sont chauffés à plus de 28 degrés. Je ne sais pas si vous imaginez. Et alors, cette histoire de décarboner, en fait, il y a un truc un peu complexe là derrière. C'est-à-dire que, bon, ça fait un moment que les scientifiques avertissent des problèmes du réchauffement climatique. Ça fait un moment qu'ils demandent que les États prennent des mesures. Si je suis dans une démarche de demander aux États de prendre des mesures, évidemment, les États vont tous dire oui et faire des promesses. Donc, si je veux quelque chose qui ait une quelconque efficacité, il me faut quoi? Il me faut des trucs mesurables. Le climat, ça se mesure pas. Je veux dire, il fait pas la même température à Paris et en Haute-Savoie, hein, quelle que soit la saison et quel que soit ce qui se passe. C'est quelque chose de difficile à mesurer. Et donc, pour avoir des mesures gouvernementales, il faut quelque chose de mesurable. Et ce qu'ont prouvé les scientifiques, c'est qu'il y avait un lien direct entre les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Et l'avantage des émissions de gaz à effet de serre, c'est que ça, si on veut s'en donner les moyens, on peut les mesurer au lieu d'émissions. Donc, on a concentré toute la politique anti-climatique sur les gaz à effet de serre. Mais pas parce qu'il y a que les gaz à effet de serre qui réchauffent, parce que c'est le truc qu'on peut mesurer, on peut demander des mesures, voter des lois au Parlement et tout ce qu'on veut. Mais ça n'empêche qu'en dehors des gaz à effet de serre, il peut y avoir du réchauffement. Et même si, alors d'abord, les centrales nucléaires émettent un gaz à effet de serre. La prochaine fois que vous passez pas loin d'une centrale nucléaire, levez la tête, vous verrez la vapeur d'eau sortir. C'est un gaz à faible effet de serre, mais c'est un gaz à effet de serre. Hein, et elle sort tant que la centrale marche. Mais en plus, donc voilà, c'est pas parce qu'ils émettent pas de gaz à effet de serre qu'ils ne réchauffent pas le climat. Donc c'est inefficace énergétiquement et ça réchauffe le climat. Et ça, je veux dire, depuis que le nucléaire existe, il doit nous sauver. Je veux dire, quand il y avait plus de pétrole, ça nous sauvait du pétrole, sauf que je m'excuse, mais on fait pas rouler les bagnoles au nucléaire. Ça nous devait nous donner l'indépendance énergétique, oui, avec de l'uranium du Kazakhstan, du Niger et des centrales sous licence américaine, on a une super indépendance énergétique. Je rappelle qu'on continue d'effectuer une partie du retraitement en Russie, en Sibérie, encore aujourd'hui, et que ce retraitement, ce qu'il produit, c'est de l'uranium enrichi. Ça leur est peut-être un peu utile, hein, la Russie, l'uranium enrichi, en ce moment, c'est ce qu'on met dans les bombes, quand même. Donc, voilà. Mais en fait, le nucléaire réchauffe le climat. De combien, je sais pas vous dire. J'ai pas fait les études, et il y a très peu d'études sur le sujet, parce que une étude scientifique, elle demande premièrement un scientifique qui la fasse, mais deuxièmement un organisme qui la finance. Et ça coûte cher, les études. Qui va financer des études qui mesurent le réchauffement climatique
produit par les
induit par les centrales nucléaires? En tous les cas, pas le gouvernement français.
Non, mais en plus, la ministre l'a très bien dit quand elle faisait le calendrier de mise en service des centrales nucléaires, c'est que le problème du dérèglement climatique, il est actuel, il est maintenant. La perte de biodiversité, les sécheresses, les ouragans, c'est maintenant. Et quand on prévoit de faire un truc qui peut-être marchera au mieux en 2037, si j'ai bien compris ce qu'elle a dit, c'est du pipeau et c'est un danger de mettre tous ces œufs dans le même panier parce que ça coûte très cher. Et surtout qu'on peut rappeler que le problème de la société industrielle et la société de ultra-consommation capitaliste d'aujourd'hui, ça se résout pas avec le nucléaire. La production, parce que le nucléaire, c'est qu'une partie de la production d'électricité qui est une partie de la production mondiale d'énergie consommée. Et 20% de l'énergie consommée sur la Terre est d'origine électrique. Et comme c'est 10% qui est fait
au niveau mondial,
l'électricité, le nucléaire, ça représente que 2%, je crois, ou quelque chose comme ça.
2%.
C'est très peu. Donc, il faudrait multiplier avec l'inacceptation sociale qui existe les centrales nucléaires, donc c'est pas possible parce que personne ne veut une centrale à côté de chez lui. Vous avez aussi, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait des films qui étaient sortis sur la lutte contre l'implantation des centres d'enfouissement des déchets en France. Bah personne n'en a voulu. C'est pour ça qu'ils vont le faire à Bure parce qu'il y a personne qui habite là-bas.
Oui. Question mesure, on peut peut-être pas mesurer le réchauffement provoqué par les centrales, mais il y a par exemple un chiffre qui parle tout seul d'une certaine manière. L'industrie nucléaire fait disparaître en été jusqu'à 15% de l'eau de certains fleuves comme la Loire. Ça donne une petite idée. Et au niveau de pour donner aussi une idée de ce que ça représente en quantité d'eau pompée, hein, y compris dans les nappes phréatiques, 42 à 57 mètres-cubes d'eau par seconde pour les centrales à circuit ouvert, hein, donc celles sans tour de refroidissement. À un moment donné, on affronte des problèmes de sécheresse, c'est monstrueux, quoi.
Après, normalement, cette eau est renvoyée, mais elle est renvoyée plus chaude et potentiellement chimiquement dégradée, quoi.
Pas potentiellement, chimiquement dégradée. Je veux dire, la centrale de Nogent, par exemple, elle largue dans la Seine autant de nitrates que les agriculteurs du coin, et je vous rappelle que c'est la grande culture céréalière, hein, dans le coin.
Je voulais dire que obligatoirement, au moment du réchauffement, il y a énormément d'évaporation. Donc, ça a été souligné. Je voulais dire aussi que si on envisage de faire les constructions de centrales, toute construction entraîne des émissions de gaz à effet de serre extrêmement importants. Et souligner aussi, puisque Gianni nous en parlait, on n'a pas encore complètement abordé le sujet, mais sur le projet Cigéo. Sur le projet CIGEO, centre d'affouissement, ça va être construire le projet est de construire à 500 mètres sous terre, 270 kilomètres de galeries. C'est-à-dire plus grand que le métro à Paris. Des galeries souterraines avec des alvéoles pour mettre les colis. Ce projet-là, s'il est mis en œuvre, il va entraîner sa réalisation, va entraîner une émission de gaz à effet de serre énorme. Comme pour toute construction, on pourrait aussi nous le rapprocher de ce qui se passe dans le Grand Paris actuellement. Mais quand on construit le métro, on descend au maximum à 50 mètres sous terre. Là, on descend à 500 mètres. Enfin, et tous ces produits excavés de sous la terre et tous les problèmes d'eau qui vont avec. Enfin, je veux dire que rendre le nucléaire neutre et énergie verte, c'est quand même une folie, quoi.
Accessoirement, on peut dire aussi que le nucléaire contribue à polluer l'eau, puisque il y a des problèmes de tritium qui sont relevés dans un certain nombre de communes. La CRO en a repéré 268, la CRIRAD 861 communes où l'eau est polluée au tritium. Hein, et pour ce qui nous concerne, plus précisément, l'eau potable de Choisy-le-Roi, de l'usine de traitement de Choisy-le-Roi, pollue l'eau de 56, rejette du dans cette eau potable, on trouve du tritium, et cette eau alimente 56 communes de la banlieue sud et ouest de Paris. Hein? Alors bon, on sait pas.
Bon. Si c'est l'ouest, ça va.
Bon, et ça grâce, n'est-ce pas, à la centrale de Nogent-sur-Seine, qui est pourtant à pas loin de 100 km de la région de Paris.
Un peu moins de 100 km, je crois, 80.
Oui.
Bon. Excusez-moi, mais quand on parle d'énergie décarbonée, on fait allusion au carbone. Alors, je voudrais rappeler déjà que, par exemple, le monoxyde de carbone est très dangereux. Il y a des gens qui meurent parce que c'est mal... c'est mal aéré chez eux ce soir, mais il y a quand même la question du CO2 dont on aurait bas les oreilles. Pour stocker le CO2, on fait confiance à la photosynthèse et, par exemple, artificialiser à tout va les sols, couper les arbres, etc., ça pose quand même un problème assez sérieux. Il faudrait peut-être regarder de ce côté-là si on peut pas sauver les terres telles qu'elles sont pour pouvoir cultiver.
I do. stakes get higher. I've got the capitalist blues. When I give everything, I won't have much more to lose. I am swimming in an ocean of sharks. They are telling me how I'm gonna make my little mark in this cold, cold world. It can be such a cold, cold world.
Effectivement, ce vieux jazz derrière les fagots, je ne connais pas l'anglais, donc je ne peux pas savoir s'il y avait un contenu intéressant.
C'était capitaliste blues, parce que ce n'est pas facile d'être capitaliste ces derniers temps, évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'échange très intéressant de nos camarades ? Alors, plein de choses. La première, c'est évidemment que le nucléaire, il est évidemment consubstantiel à l'État et consubstantiel à la République en plus. C'est vraiment une spécificité de la France. C'est également un des mythes de la puissance française. Il nous reste plus grand chose, donc au moins il nous reste ça. On pourrait évidemment se projeter dans des analyses et des introspections psychanalytiques, psychologisantes sur Macron pour savoir si vraiment il veut rester dans l'histoire en étant un président bâtisseur, puisque en l'occurrence il y avait quand même un consensus pour dire que le nucléaire d'une part et EDF et Areva d'autre part, ça devenait quand même vraiment un truc en bout de course.
Ouais, ça craint, ouais.
Ouais, à fond. Idem pour la faillite totale de l'EPR de Flamanville et...
Ah, ils en rajoutent 6, là. 6 ouais. Petits, d'accord, mais 6 quand même.
Alors, ça, à mon avis, c'est certainement intéressant et ça doit entrer en ligne de compte, mais il faudrait peut-être aller chercher plus loin dans le sens où la société nucléaire et l'industrie du nucléaire, elle est une composante très importante du complexe militaro-industriel français.
Tout à fait. Ouais.
Et elle mobilise des forces sociales, alors pas les nôtres, évidemment, mais des secteurs de la bourgeoisie particuliers et particulières. Alors, évidemment, vous voyez tout de suite lesquels dont on peut parler. Premièrement, évidemment, tout ce qui va être bétonneur, déjà d'une part, donc ça va être FH, Bouygues, etc. Et aussi tout ce qui va être du secteur militaro-industriel, du complexe militaro-industriel, comme on disait dans les années 80 quand on était anti-imp et anti-impérialiste, le CMI. Donc ça, c'est des choses en France qui sont bien connues. Ça va être Thalès, ça va être Safran, ça va être aussi Thomson j'ai un trou de mémoire, mais la famille Dassault, voilà, ce genre de choses, donc qui sont des fractions de la bourgeoisie sur lesquelles, finalement, Macron s'est assez peu appuyé au cours de son premier mandat. Et d'une manière générale, Macron était plutôt, on va dire, l'homme, l'affidé, le fondé de pouvoir d'un certain type de la bourgeoisie, c'était la bourgeoisie start-up, mais aussi la bourgeoisie, on va dire, des médias, hein, en l'occurrence Xavier Niel, Patrick Drahi, etc. Donc des gens qui étaient particulièrement bien identifiés, ce qu'on pourrait appeler des chevaux légers. C'est pas cette même bourgeoisie. Donc quelque part, on aurait un signal qui serait envoyé aussi vis-à-vis d'une fraction de la bourgeoisie, j'aurais beaucoup dit ce mot-là au cours des 5 dernières minutes, qui lui permettrait d'avoir un petit peu d'assises pour la suite de son quinquennat, et en plus en entraînant les forces vives de la nation, puisque les grands projets, ça permet toujours de mobiliser quelques secteurs de la société, hein, quelques secteurs de la CGT, quelques secteurs de la société civile qui arrivent toujours à s'agripper à ça. Donc quelque part aussi mettre un peu d'essence dans le moteur Macron, qui en a quand même vachement besoin pour pouvoir poursuivre ses quatre années. Il faudrait creuser cette piste en essayant vraiment d'aller voir ce qui se passe du côté de ces secteurs-là de la société, du complexe militaro-industriel français.
Ouais, tout à fait. Mais alors, je crois que il dit dans le truc un truc intéressant et important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nucléaire civil sans nucléaire militaire, il n'y a pas de nucléaire militaire sans nucléaire civil, c'est-à-dire que les deux sont liés. On est dans une période où on entend parler de plus en plus de, on entend des bruits de bottes dans le monde de plus en plus importants. Que une guerre nucléaire n'est pas du tout quelque chose qui peut ne pas arriver. Hein, on a cru très longtemps que, comme on faisait peur au voisin d'en face, et ben le voisin d'en face, celui qui avait le nucléaire, ne ferait rien parce qu'il avait peur d'en prendre plein la gueule. Je crois que cette dissuasion, on appelle cela la dissuasion, c'est dépassé maintenant. C'est dépassé. C'est certain que un jour ou l'autre, il va y avoir des gens qui vont prendre du nucléaire sur la gueule à petite dose. Hein. C'est comme les mini EPR, quoi. C'est vraiment. Donc bon. Que dire de ce que ce projet ? Ce qui est étonnant, c'est la bêtise tout de même de tous ces gens qui te sortent des conneries pas possibles sur la planète, sur sauver le climat grâce au nucléaire. Mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Heureusement que Sylvie nous explique comment ça réchauffe terriblement. 66% de la chaleur produite ne va pas dans l'électricité, elle va dans l'atmosphère. Hein. Donc c'est énorme, ce truc. Ça ne peut pas. Alors on avait dit au début, on était nous réticents par rapport à ça, c'est qu'un jour ou l'autre, il va y avoir en France un accident majeur. Au niveau du nucléaire, ben c'est possible effectivement. Il y en a eu des mineurs, ça c'est clair, mais il peut y en avoir effectivement un gros un jour. Et là, je crois que ça sera une catastrophe terrible. Bon, je crois que c'est toujours une fuite en avant. C'est toujours une fuite en avant. Et le nucléaire, ensuite, comme tu le dis si bien, c'est lié à un projet. C'est lié. On a toujours dit que l'Allemagne avait la machine à outils et que nous, la France, on avait le nucléaire au niveau capitaliste.
Et alors, en termes de bon, alors ça, c'est la projection, hein, donc la folie, hein, comme tu as dit, c'est aussi complètement lié au capitalisme, c'est-à-dire que au lieu de s'arrêter pour réfléchir, on passe par le solutionnisme technologique.
C'est ça.
C'est-à-dire que en fait, on a un problème avec la technologie qu'on a fait, donc il va nous falloir encore plus de technologie pour pouvoir résoudre le problème technologique A. Et donc, en fait, A devient A', qui deviendra A'', puisque pour résoudre le problème technologique, on fera encore plus de technologie pour produire encore plus de merde et produire. Évidemment, à aucun moment, on pose la question de l'utilité sociale de qu'est-ce qu'on produit et comment on le produit. Ça, c'est sûr que si tu veux que chacun ait Internet à la maison et que tous les services publics doivent passer par ChatGPT, intelligence artificielle, et qu'il faut des milliards et des milliards de kilowatts pour pouvoir alimenter des data et des serveurs, pour pouvoir acheter des pizzas par l'intermédiaire de ton super application qui te permet également de commander un billet de train, mais aussi de te laver les dents. Ça, c'est sûr.
Sans oublier les voitures électriques.
C'est ça. Ça, c'est sûr qu'il va t'en falloir de l'énergie. Alors évidemment, bien sûr, on va pas demander à ces gens d'être intelligents, puisque quand ils fabriquent leur merde, ils trouvent toujours des gens pour le vendre. Et puis, pour nous vendre des trucs, eh ben, il faut qu'on bosse pour avoir de l'argent, pour acheter des conneries. Donc, forcément, tout ça est bien pensé. Ça s'appelle un système social. Et il paraît que aux dernières nouvelles, ou alors si ça a changé, moi, je suis pas au courant, ça s'appelle le capitalisme. Mais bon, voilà. Non, il y a quelque chose quand même qui va être extrêmement important, là, on va dire, sous très rapidos. C'est la question de la flotte.
Ouais.
Puisque on est déjà, alors vous allez me dire, oh non, il a plu la semaine dernière, et l'autre, oui, c'est vrai, j'étais ça dehors, est... je confirme.
Mais la flotte qui tombe là,
voilà, ça mouille la terre, voilà, ça remplit pas les nappes phréatiques, et on a déjà une dizaine de départements qui sont en seuil critique pour la sécheresse. On l'a dit, ça a été répété de nombreuses fois au cours de l'entretien qu'on a eu là. La question de la flotte et de la consommation de l'eau pour les centrales nucléaires, elle est vraiment énorme, énorme, énorme. Et en plus, elle rejette de l'eau chaude, donc qui défonce évidemment la faune et la flore des espaces dans lesquels cette eau chaude est rejetée. Mais évidemment, elle en évapore énormément, et cette eau chaude, comment dire, s'évapore encore plus vite et elle casse, elle pète le cycle de l'eau. Donc vraiment, quand on vous dit que ça sert à rien, c'est vraiment plus que nuisible. Voilà. Je crois que, histoire d'être encore plus joyeux et de terminer sur une note magnifique, tu avais quelques brèves à nous donner.
Quelques brèves. Je vais essayer.
Déjà une seule peut-être. Ouais.
Non, je vais prendre les brèves parce que je fais une rubrique sur notre journal Courant Alternatif. Une rubrique qui s'appelle Big Brother. Ça existe depuis.
Trop longtemps.
Big Brother, ça fait toujours peur d'ailleurs à ceux qui la lisent, effectivement. Par rapport à cette rubrique du mois de juin, je vais en tirer finalement les deux trucs qui sont optimistes, dirons-nous. Première chose, c'est que la police, la gendarmerie, puis aussi l'armée, a des problèmes pour recruter. Il y a de plus en plus de départs, déjà, qui sont massifs, au niveau des flics et au niveau de la gendarmerie. C'est énorme, paraît-il, d'après la Cour des comptes. C'est pas moi, le militant, qui dit ça, c'est la Cour des comptes qui dit que vraiment, c'est un phénomène de fond qui s'est installé depuis la fin de la crise sanitaire. Alors, je crois que c'est intéressant. Alors, par contre, pourquoi ? Alors là, on est déçu tout de même. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ceux qui deviennent flics... ils sont bien payés peut-être, mais ils bossent beaucoup, et que quand ils sont à la police municipale, ils bossent moins, ils gagnent un peu moins, mais ils bossent moins. Donc effectivement, il y en a beaucoup qui se barrent à la police municipale. Donc je vous dis, c'est pas forcément ce qu'il faudrait.
Moi, j'ai eu une preuve du contraire. J'ai eu hier appelé la police nationale en 17. Signaler une voiture dégradée sur la voie publique.
Alors, comme tu n'as pas de micro, on ne t'entend pas, malheureusement.
Ouais, donc le 17, on dit on envoie quelqu'un quand on peut. On n'est jamais venu arriver. C'est la municipale qui est arrivée pour. Quand ils venaient sécuriser le marché Jean Jaurès, ils ont vu la bagnole à moitié retournée et ils sont venus voir ce qui se passait. Donc, c'est la municipale qui a bossé.
Il faut du maintien de l'ordre à Reims, ouais.
C'était effectivement quand il y a eu. Quand il y a eu les gilets jaunes, ouais, qui ont fait une manifestation célèbre à Reims, puisque effectivement il y a eu des dégâts au centre-ville de Reims, on a vu la police municipale qui tirait au flashball. Ouais.
Est-ce que tu as des chiffres de non-reconduction des contrats
de flics?
Ouais, non, de gendarmes et de militaires, non.
Non, il y a pas de chiffres. Si ce n'est que si ils sont obligés donc de recruter. Et au niveau du recrutement, ils ont baissé le niveau. Ah. Alors, quand je vous dis qu'ils ont baissé...
On est à niveau CM2 maintenant, donc
Oui, alors, c'est sûr, là, parce que de toute façon, en 2014, ceux qui passaient le concours de gardien de la paix, il n'y avait que 2% qui étaient sélectionnés. 2%. Ouais. Et maintenant, on en est au niveau des flics à 18% en 2020 et 20% chez les sous-officiers de gendarmerie. C'est-à-dire que là, effectivement...
On est passé de 2 à 18, seulement 2% dans les années 2000.
Ouais. Oui, c'est étonnant, hein.
Je croyais que la note concours. Avait été abaissée à 7 sur 20.
Justement. Justement. Bon, voilà, alors donc...
concours niveau brevet des collèges, il me semble.
Oui,
pour gardien de la paix.
Ouais, gardien de la paix, c'est niveau... Mais bon. Alors, je crois que tout de même... comme moralité, au lieu de gueuler à cab, il faudrait justement gueuler démission. Je crois que c'est important que ces flics démissionnent. C'est fondamental. Alors, autre chose, parce qu'il y a des points positifs, tu vois, dans la rubrique. De temps en temps, on en rigole. Alors, il y a un autre point positif de ce mois-ci, c'est que l'État français a été condamné pour avoir maintenu un militant emprisonné à l'isolement. Alors, c'est la prolongation d'isolement d'un militant présenté comme étant d'ultra-gauche, comme nous sommes, surnommé Libre Flo.
Oui, c'est Flo, ouais.
Ouais. Qui était régulière, c'était jugé par le tribunal administratif de Versailles le mois dernier, en avril. Et finalement, il a touché les indemnités. Il devrait normalement s'en sortir, même si son avocat dit qu'il va falloir maintenant tout faire pour qu'on arrête un peu que l'État français...
Il est resté combien de temps à l'isolement ?
Ah, il est resté longtemps, puisqu'il a même fait, pour s'en sortir, une grève de la faim de 37 jours.
Ça, je crois qu'il est resté 3 ans, hein, c'est ça.
3 ans, ouais.
Et qu'est-ce que ça veut dire, isolement ? Ça veut dire 23 heures sur 24 en cellule, sans contact avec les autres détenus, pas d'activité, pas de bibliothèque.
Alors, il en a fait des lettres de ça, ouais. Il a écrit des lettres de ça pour bien dire les conséquences de l'isolement sur le corps, mais aussi sur l'esprit des gens.
Alors, c'était un des combats d'ailleurs au cours des années 80 qui a malheureusement disparu des questions sur la prison pour se battre qui était la fin à la fois des quartiers d'isolement, mais aussi de l'isolement comme punition ou comme peine dans la peine ou prison dans la prison, puisque à l'époque on n'hésitait pas à parler de torture et de torture blanche.
Ouais. On va quand même signaler que Libre Flo était connu pour aller en Syrie, pour se battre contre Daesh, aux côtés des YPG, le mouvement kurde. Et c'est à partir de là qu'on l'a considéré comme étant d'ultra-gauche et qu'on l'a fliqué comme c'est pas permis.
C'est ça, comme à peu près 400 à 600 personnes qui se sont rendues pour témoigner d'une manière ou d'une autre leur solidarité avec... la lutte des Kurdes au Rojava, spécifiquement contre Daesh, solidarité qui a pu prendre la forme pour certains d'un accompagnement et dans la lutte armée. Et on sait aujourd'hui que environ 400 personnes au moins sont particulièrement servies par les services de renseignement qui n'hésitent pas à leur coller des prétentions terroristes sur le dos et à les surveiller. Et c'est exactement ce qui s'est
qui
passé
pour Libre Flo.
Avec Flo. Voilà.
Néanmoins, il devrait s'en sortir puisqu'il a quand même gagné devant le tribunal administratif. Là, il a encore des problèmes. Je crois qu'il a encore son bracelet électronique. Ouais. Mais bon, il va falloir quand même, si on a l'occasion de l'aider, il ne faudra pas rater. Allez, on se quitte là. On se retrouve la semaine prochaine.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Et pas le capital, protéger le climat.
Je
problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.